Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why UnitedHealthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Bienvenue dans notre émission hebdomadaire 15 minutes de géopolitique où nous allons essayer, comme chaque semaine, d'analyser l'actualité dans un temps maximal de 15 minutes. Et il s'est passé beaucoup de choses cette semaine, et notamment le 8 octobre, l'explosion du pont reliant la Crimée au reste de la Russie. Explosion qui est une explosion criminelle, rondement menée. Alors, on ne sait pas encore qui est directement derrière cette explosion, même si on a bien compris que c'était la partie ukrainienne, mais tout cela semble avoir la patte des services secrets britanniques. Services secrets britanniques qui forment, qui préparent l'armée ukrainienne depuis plusieurs années, au moins depuis 2014. Ces commandos britanniques sont très doués, c'est une de leurs spécialités, pour mener des opérations derrière les lignes. On a vu des opérations menées contre des lieux où étaient stockés des armements russes. On a vu également des opérations menées en Crimée. Et aujourd'hui, ce pont qui a explosé, une opération qui, on le voit, a nécessité une longue préparation puisque, d'après les informations qu'on a aujourd'hui, l'émission est enregistrée quelques heures après l'explosion du pont. Donc, il faudra voir aussi si on n'a pas des informations complémentaires dans les jours qui viennent. Mais d'après les informations que nous avons quelques heures après l'explosion, il s'agit d'une voiture qui explose sur le pont au moment où arrive un train avec plusieurs citernes. Et donc l'explosion de la voiture provoque l'explosion du train qui est rempli d'essence avec ses citernes d'essence. Et évidemment, le pont explose. Alors j'ai lu sur d'autres sites qu'il aurait pu s'agir d'un drone. Certains parlent de drone, un drone qui aurait attaqué le train. Donc, j'ai deux sources divergentes, soit une voiture qui a explosé à l'arrivée du train, soit un drone. Toujours est-il que c'est bien ce train chargé d'essence qui explose et qui a donc provoqué la destruction du pont. Ce qui veut donc dire que tout cela a été planifié, préparé. Nous sommes au lendemain de l'anniversaire de Vladimir Poutine et c'est évidemment une très bonne manière pour les Ukrainiens de fêter un bon anniversaire que de détruire ce pont qu'il a construit en 2018 et qui était le symbole du rattachement de la Crimée à la Russie. Ça veut dire d'une part que les Ukrainiens, avec leurs alliés anglo-saxons, ont de plus en plus la possibilité de faire des attaques derrière les lignes. Ça veut dire aussi que la Crimée sera difficilement reliée à la Russie, donc ça va être compliqué pour lui apporter des munitions, pour lui apporter également des réserves d'essence et autres. Donc la Crimée va être de plus en plus isolée, quasiment assiégée. Et ce pont était aussi une manière pour la Russie d'approvisionner la Crimée et à partir de là, d'approvisionner le reste des armées russes. Donc, c'est une attaque logistique majeure qui ne peut que pénaliser la Russie dans la suite des opérations. Donc, on voit bien là qu'il y a, je dirais pas un tournant de la guerre, mais enfin, en tout cas, un moment important qui fait qu'on matérialise véritablement le recul russe et la difficulté de plus en plus grande de la Russie de tenir les opérations et d'avoir un ascendant sur les opérations. Ce que l'on voit aussi, c'est l'importance de ces structures de télécommunication. Il y a aujourd'hui le pont de Crimée, on a eu le gazoduc Nord Stream, et puis un événement qui n'a rien à voir avec la guerre en Ukraine. Hein. C'est uniquement pour vous montrer l'importance des infrastructures. La ville de Lyon, jeudi dernier, donc le 6 octobre, qui a subi une panne informatique au niveau de son réseau de métro. Alors, j'ignore quelle est l'origine de la panne informatique, si c'est une panne ou si c'est une attaque cyber. Il faudra voir là aussi si on a plus d'éléments dans les jours qui viennent, mais il se trouve que j'étais à Lyon ce jour-là pour mes cours, Oui, c'est surprenant de voir une ville dans laquelle le métro s'arrête. Tout en que Lyon a plusieurs lignes de métro, et donc la ville est validée. Même s'il y a un système de bus, même s'il peut y avoir des taxis, d'abord il y a une expectative, et ensuite il faut que les gens prennent à se réorganiser. Et cela a très fortement touché la ville de Lyon, qui est quand même la deuxième ville française, et en termes de population, en termes économiques aussi. Et donc on imagine aussi les problèmes économiques que cela peut poser. Alors heureusement pour Lyon, c'est arrivé en fin de journée et ça a duré que quelques heures. Donc dès le vendredi, les éléments retournaient à la normale. Mais imaginez une ville comme Paris où il n'y aurait plus de métro. Alors ça serait comme une grève, vous me direz, mais même pendant les grèves, il y a quand même quelques métros qui circulent, et puis comme on n'est pas prévenu, on n'a pas le temps de s'organiser. Ce qui renvoie ici à une notion économique, qui est un débat assez vif chez les économistes, qui peut, dans ce cadre-là, être appliquée à la géopolitique. C'est la différence entre la notion de l'avantage comparatif et la notion de l'antifragilité. L'avantage comparatif, c'est notamment ce qu'on appelle la loi de Say en économie, c'est considérer qu'un pays a tout intérêt à se développer là où il est bon et à faire ailleurs là où il est moins bon. Et par exemple, on va exploiter de l'uranium au Kazakhstan et on le transforme en France pour faire les centrales nucléaires et pour se chauffer au nucléaire. Alors que la notion d'antifragilité, c'est considérer que il y a effectivement des éléments que l'on peut faire ailleurs, mais qui sont indispensables pour la sécurité, même pour la survie d'un pays. Et donc, même si on peut l'avoir ailleurs à moindre coût, compte tenu de son importance, il y a un enjeu de souveraineté majeur qui est de pouvoir l'avoir facilement. Et quand on dit pouvoir l'avoir facilement, c'est surtout garantir le fait que ce produit puisse arriver et puisse être accessible. C'est tout l'enjeu qu'il y a aujourd'hui avec Taïwan et les semi-conducteurs. 90% des semi-conducteurs sont produits à Taïwan, notamment avec l'entreprise TSMC. C'est quelque chose d'extrêmement délicat, compliqué de faire des semi-conducteurs. Mais si on n'en a pas, eh bien, plus aucun élément informatique ne peut fonctionner. Or, aujourd'hui, nous sommes dans une société entièrement informatisée. On l'a vu avec la panne des métros de Lyon. Et justement, il y avait aussi cette semaine, mardi, la fête nationale taïwanaise. Alors, ce n'est pas le jour, autrement dit, de la fête nationale taïwanaise, mais c'est le jour où l'ambassade de France, dans l'ambassade de Taïwan en France, célébrait cette fête nationale, où j'étais d'ailleurs présent à l'invitation de l'ambassadeur avec qui nous avons réalisé un entretien au conflit il y a quelques mois. Et l'ambassadeur de Taïwan en France, alors qu'il n'a pas le statut officiel d'ambassadeur, mais qui est quand même appelé ambassadeur, mentionnait justement cette importance des semi-conducteurs et le fait que cette île de Taïwan, qui est peuplée de 24 millions d'habitants, et qui est grande comme à peu près la Normandie, bien cette île joue un rôle important dans le monde, dans la géopolitique mondiale, non pas uniquement parce que la Chine a des velléités de l'envahir, mais aussi parce qu'il y a cette question des semi-conducteurs qui pèsent évidemment sur l'ensemble de l'économie mondiale. Et puis, autre sujet majeur de cette semaine, c'est l'élection, plutôt les élections au Brésil, 2 octobre, c'était il y a une semaine. Des élections qui se sont soldées par une défaite complète des sondages. Là aussi, je vous renvoie à un article réalisé par Nicolas Dolo et qui est publié sur le site internet de Conflit. Nicolas Dolo, qui vit depuis nombreuses années au Brésil, c'est un Français installé au Brésil qui, pour Conflit, écrit régulièrement sur le Brésil. Les sondages prévoyaient, annonçaient une victoire haut la main de Lula da Silva. Celui-ci est certes arrivé en tête avec 48% des voix, mais il se retrouve en ballottage face à Jair Bolsonaro. Beaucoup de sondages donnaient à peine 30% des voix à Bolsonaro, celui-ci a fait 43%. Les élections, le deuxième tour des élections présidentielles auront lieu fin octobre. Il reste donc encore 15 jours de tractation. Mais ce qui est également intéressant, c'est de voir qu'au niveau local, le parti de Bolsonaro, le PL, le Parti libéral, a connu de très nombreuses victoires, à l'inverse du parti de Lula, le PT, le Parti des travailleurs, puisque au Brésil, il y a toute une série d'élections le même jour pour le président, pour les gouverneurs, pour certaines mairies, pour l'Assemblée nationale et pour le Sénat. Or, on a vu une très large victoire des candidats du Parti libéral. 8 États ont été gagnés dès le premier tour, dont celui de Rio de Janeiro, et dans l'État de São Paulo, le parti de Bolsonaro est en tête en ballottage favorable. Ce qui veut donc dire qu'au Brésil, les grandes villes, les grands ensembles urbains votent pour Bolsonaro. La région qui demeure favorable à Lula, c'est le Nordeste, même si là aussi, on a vu un recul du Parti des travailleurs, recul qui n'est pas encore assez important pour permettre à Bolsonaro et à son parti de diriger le pays. Enfin, de diriger, pardon, cette région, le Nord-Est, mais malgré tout, un recul. Ce qui veut donc dire qu'après 4 ans de mandat de Bolsonaro, au niveau local, il y a une implantation de plus en plus forte. Or, souvent, on a tendance à projeter le fonctionnement institutionnel des pays de la France sur les pays étrangers. Le président brésilien n'a pas du tout les mêmes pouvoirs que le président français. Il a beaucoup moins de pouvoir, les pouvoirs locaux sont importants, et il est tout à fait possible, au vu du premier tour, et si le deuxième tour confirme le premier tour, que Lula soit élu président, mais qu'il ait en face de lui une chambre et un Sénat qui soient dirigés par le Parti libéral de Bolsonaro. Il est également les principaux États qui soient dirigés par le Parti libéral. Et donc, dans ce cas-là, Lula ne pourrait pas diriger le pays, il ne pourrait pas diriger le Brésil, puisqu'il aurait l'ensemble des lieux locaux et de la Chambre aux mains de l'opposition. Donc, peut-être que le 30 octobre, les grands médias traditionnels annonceront la victoire de Bolsonaro, mais, pardon, annonceront la victoire de Lula da Silva, mais en réalité, ce sera une victoire de Bolsonaro via son parti, le Parti libéral, et donc un Brésil qui sera moins gouvernable pour Lula et toujours aussi intéressant à étudier. Donc on le voit là aussi, il faut aller un petit peu au-delà des apparences, au-delà de ce que peuvent dire les sondages pour analyser les rapports de force à l'échelle locale. Et quant à la guerre en Ukraine, le moment important va être l'arrivée de l'hiver, ce qui va peut-être modifier certains aspects de l'opération militaire. Et là aussi, ça va être très intéressant à étudier. L'Ukraine a annoncé vouloir reprendre la Crimée. On va voir s'ils y arrivent, mais il est indéniable que la destruction du pont est un coup très dur pour la Russie et pour l'Ukraine. C'est évidemment une revanche sur l'annexion de 2014.